Bonsoir à toutes et tous, bienvenue sur l'antenne de Radio Imo, ravi de vous faire vivre depuis la Maison de la Chimie à Paris, cette 12e édition du Speed Dating de l'immobilier, rendez-vous incontournable qui réunit à la fois des promoteurs, mais aussi des bailleurs sociaux, des élus, les acteurs de la ville et puis des partenaires financiers autour d'un enjeu majeur, faire sortir des projets et malgré un marché carrément sous tension. Et pour cette ultime interview, j'ai le plaisir de recevoir le président du Crédit Mutuel Arkéa. Bonsoir Julien Carmona.
Bonsoir.
Merci d'être présent et de répondre gentiment à l'invitation. On va parler dans un instant, évidemment, je vous posais plusieurs questions, mais là, vous sortez des conférences, des tables rondes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur cette 12e édition ?
Alors, j'ai envie de dire que malgré un contexte difficile, on a quand même un certain nombre d'acteurs, qu'ils soient promoteurs, foncières, bailleurs sociaux, élus locaux. Je pense à la prestation formidable du maire de Fontenay-sous-Bois, M. Gautret, qu'on a eu, un ensemble d'acteurs, disais-je, qui vraiment décident d'aller de l'avant. On peut effectivement regarder les contraintes, regarder les incertitudes, se dire que le ciel est couvert, et c'est vrai. Et néanmoins, il y a un tel besoin de logement, mais plus largement, il y a un tel besoin d'action dans notre société un peu bloquée, qu'on ne peut qu'apprécier justement des gens qui décident d'avancer coûte que coûte, vaille que vaille, et ça fait du bien.
Oui, c'est bon pour le moral. Dans un grand entretien récent que vous avez donné aux Échos, vous avez clairement déclaré que l'hyper-régulation européenne inhibait l'innovation et freinait le financement de l'économie réelle. Pourquoi est-ce que vous estimez que le curseur s'est déplacé un petit peu trop loin ?
Alors, le curseur s'est déplacé trop loin parce qu'on partait d'un objectif complètement légitime. Je rappelle que cette réglementation bancaire et cette supervision qui est européenne depuis 2014 au niveau de la Banque Centrale Européenne, ça s'est mis en place après la fameuse grande crise de 2008, crise des subprimes, qui, il est vrai, avait montré des fragilités dans le système bancaire. Donc de manière complètement logique, les États européens ont décidé d'avoir un système plus sécurisé. Cet objectif a été atteint, il l'a été à la fois en exigeant des banques qu'elles aient beaucoup plus de fonds propres que ce qu'elles avaient avant la crise. Ce niveau, il a pratiquement triplé entre 2008 et 2025, et c'est bien, avec une réglementation plus couvrante et avec quelque chose qui a limité la prise de risque excessive. Et puis, il y a un moment, on passe de l'équilibre à quelque chose qui peut devenir un excès de principe de précaution. Ce qui arrive quand on a une autorité indépendante, c'est le cas de la BCE, qui, à un moment, n'ayant pas de contre-pouvoir, va vouloir aller toujours plus loin dans cette précaution, c'est-à-dire d'en décourager la prise de risque, mais du coup décourager le financement de l'économie. Peu de banquiers, je dirais, en parlent publiquement. Moi, j'ai souhaité, je dirais à la place qui est la mienne, voilà, de président d'une banque française territoriale, dire attention, ces règles risquent de pénaliser le financement non seulement des priorités de l'Union européenne, la transition écologique, la transition numérique, le réarmement maintenant, mais aussi le financement de l'économie réelle en France, dont l'immobilier.
D'ailleurs, vous dites, vous dénoncez une forme d'aveuglement réglementaire, des règles uniformes imposées à l'ensemble des pays. Est-ce que la BCE aujourd'hui comprend réellement, finalement, la spécificité française ?
Alors, il est vrai que nous avons des spécificités en France et le crédit immobilier en fait partie. Vous le connaissez, les auditeurs de Radio Imo le connaissent bien. Donc c'est un crédit à taux fixe, à long terme, plus de 20 ans, et avec une prise de risque par la banque qui est liée non pas à la valeur du bien, ce qu'on appelle la LTV, loan to value, mais aux revenus de l'emprunteur, du foyer et à leur stabilité. Ce système est très protecteur, notamment du fait du taux fixe. L'emprunteur ne subit pas la variation des taux d'intérêt à la différence de ce qui se passe en Espagne, au Royaume-Uni ou dans d'autres pays. Et puis, il permet quand même de financer très largement l'accession à la propriété et l'investissement locatif avec un risque pour les banques qui est très limité. Et donc, on peut se demander pourquoi notre contrôleur européen en a contre ce système. Je pense que c'est lié effectivement à une vision assez distante des choses qui considère la France comme une exception, ce qu'elle est dans ce domaine-là, et de dire c'est une exception, donc c'est une anomalie, donc il faut l'aligner sur le reste. Donc ce qui est en train de se passer, c'est une espèce de nivellement par le haut en termes d'exigence qui prend plusieurs formes. Je suis désolé d'entrer dans les détails, mais je pense que c'est important d'expliquer. D'abord, vous savez que quand une banque prête, quand elle fait un crédit, il faut qu'elle ait des fonds propres à côté. Donc ces fonds propres sont déterminés par des règles savantes qu'on appelle les règles prudentielles. Dans la réforme qui est en train de se mettre en œuvre, de se mettre en place, qu'on appelle la réforme Bâle IV, le pourcentage de fonds propres qu'il faut mettre derrière chaque crédit immobilier va être multiplié par 4. D'une part, c'est extrêmement paradoxal, puisqu'on est sur un modèle, on l'a dit, très peu risqué en pratique, mais surtout, ça peut être terriblement pénalisant pour le financement du marché immobilier français, qui, vous le savez, est quand même assez fortement en crise. Deuxième élément, le taux fixe est menacé dans la durée. Pourquoi ? Parce que c'est un système, là aussi, qui est minoritaire en Europe, alors même que c'est la banque qui prend le risque et non pas l'emprunteur. Et enfin, sans entrer dans les détails, on est en train de se voir imposer des contraintes administratives très lourdes, par exemple une visite annuelle d'un évaluateur indépendant pour vérifier la valeur du bien qu'on a financé. Donc là, on est face à une espèce de dérive. Je suis un Européen convaincu, mais là, on est face à une Europe qui est en train, si j'ose dire, de pondre à la chaîne de la réglementation, de la norme, et de la norme malheureusement peu adaptée.
Julien Carmona, là, on fait un état des lieux de ce qui ne fonctionne pas. Concrètement, vous, quelles sont les décisions que vous souhaitiez voir prises ? Qu'est-ce que vous attendez ? Qu'est-ce que vous préconisez, finalement ?
Plusieurs choses au niveau européen et ensuite au niveau national. Ouais. Et nous ne faisons pas de politique et nous ne pouvons que souhaiter effectivement un certain nombre de choses.
Alors au niveau européen et puis ensuite au niveau
voilà,
national.
Voilà, au niveau européen, c'est d'avoir, quand on parle de réglementation de supervision bancaire, quand je dis aujourd'hui ils appliquent uniquement un principe de précaution, dans un sens c'est normal parce que c'est leur mandat, ça résulte des traités. Il serait intéressant, comme c'est le cas aux États-Unis, comme ils sont en train d'y réfléchir au Royaume-Uni, de dire le mandat des contrôleurs bancaires européens, c'est d'une part la gestion du risque, l'évitement du risque, mais d'autre part la compétitivité, la croissance. Ça me paraît très important. Ensuite, au niveau national, on a nous-mêmes notre capacité à avoir une prolifération normative excessive. Donc là aussi, je pense qu'un des problèmes, non seulement de la banque, mais aussi de l'immobilier, c'est trop de normes contradictoires et donc trop de recours et de décisions juridiques qui viennent perturber le libre jeu des acteurs économiques. Ça serait d'avoir à minima une pause normative, une pause réglementaire et si possible une vraie simplification.
Alors vous dites, et à juste titre, que vous ne faites pas de politique, mais est-ce que vous avez l'impression d'être entendu par les politiques ?
Pas toujours, et je suis surpris que tout ce que je vous ai décrit, qui est quand même une vraie menace pour le crédit immobilier à la française, dont on connaît le rôle, à la fois financier, mais le rôle pour la cohésion sociale, permettre l'accession à la propriété, mais aussi permettre la production de logements locatifs, que tout ça se soit déroulé dans un contexte où les pouvoirs publics français n'ont jamais levé la main en disant attention. Je pense que c'est lié un peu au dysfonctionnement de nos gouvernements actuels, mais c'est quand même préoccupant.
Un autre cheval de bataille, tiens, la fiscalité. Vous êtes l'un des 1000 dirigeants signataires de la tribune dans l'Express pour dénoncer une folie fiscale risquant de nuire à la compétitivité et à la souveraineté de la France. Qu'est-ce qui vous a poussé à participer à cette tribune et à monter au créneau ?
Alors c'est vrai, et je dois dire qu'il y a quelques années, jamais je n'aurais imaginé signer un texte comme celui-là, ni monter au créneau. Nous sommes une banque mutualiste, on est une banque 100% française et on s'honore d'être de bons contribuables. Voilà, quand vous regardez les taux effectifs d'impôt sur les sociétés payés en France, vous avez un certain nombre d'acteurs, dont les banques mutualistes françaises, qui sont parmi les contribuables les plus fortement contributeurs. Et je dirais, nous en sommes fiers. Cependant, quand on voit le contexte, alors très particulier politiquement, d'élaboration du budget 2026.
C'est bon qu'on puisse dire.
Voilà, avec un gouvernement qui a laissé finalement libre jeu au Parlement, mais peut-être parce qu'il ne peut pas faire autrement, on ne peut être que très inquiet. On a une situation des finances publiques qui est préoccupante, qui n'est pas hors de contrôle, mais qui pourrait le devenir si rien n'est fait. Et qu'est-ce qu'on constate ? Zéro proposition d'économie et des parlementaires qui, tout parti confondu, j'insiste bien là-dessus, tous partis politiques confondus, ont non proposé aucune mesure d'économie et ont refusé les rares mesures qui étaient proposées par le gouvernement. Et du coup, si on veut réduire le déficit et qu'on ne veut faire aucune économie, il y a des impôts en plus. Inutile de rappeler que la France a déjà le record de prélèvements obligatoires en Europe, mais même dans le monde, et que tous les impôts nouveaux sont des impôts qui pèsent, alors certains diront sur les riches, les ultra-riches, les hyper-riches, d'autres vont dire sur les patrons. Mais quand on regarde derrière je dirais, ce qui est avancé, la réalité, c'est des impôts qui pèsent presque à 100% sur les entreprises. Les entreprises françaises, dans leur immense majorité, elles font preuve d'un civisme fiscal exemplaire. Elles ne font pas l'évasion fiscale qui leur est reprochée, en tout cas pas pour les entreprises territoriales, dont la nôtre. Et le fait de dire « vous payez déjà beaucoup et vous allez avoir 40 milliards d'impôts en plus », je pense que là, on est dans une zone de très fort danger pour les entreprises et donc pour l'économie française.
Julien Carmona, vous avez lancé la coalition Territoires et Transition. C'est un think tank qui réunit élus, chercheurs, entrepreneurs, acteurs également aussi de la société civile. C'est quoi les objectifs derrière cette initiative ?
Alors les objectifs sont modestes et je pense réalistes. Il s'agit d'une part de ne pas trop attendre de l'État, voire de ne rien attendre du tout, considérant d'une part la situation des finances publiques et d'autre part le fait que la machine législative et réglementaire est un peu grippée, d'une part, et d'autre part de dire, mais finalement, sans attendre de grands soirs dans tel ou tel domaine, beaucoup de solutions existent, elles existent dans les territoires, et la bonne diffusion des solutions qui peuvent exister sur le logement, sur les énergies renouvelables, on est en train de travailler sur le thème de l'eau, qui est un thème très important, et du point de vue écologique et du point de vue économique, la viralité positive des bonnes pratiques peut déjà apporter énormément de choses. Dans le contexte actuel où l'État centralisateur est en train de trouver ses limites, on souhaite à la fois plus de décentralisation, mais aussi de regarder les bonnes idées qui poussent en bas et qui ne descendent pas d'en haut.
Et c'est quoi d'ailleurs les messages clés qui sont sortis de la première note sur le logement ?
Oui, cette note a déjà plus d'un an, mais il me semble qu'elle conserve une bonne part de son actualité. Ouais. L'innovation financière, et ça en tant que banque, on peut en parler, notamment les nouvelles formes d'accession à la propriété. Certaines lois ont permis de faire bouger les lignes. Je pense à ce qui a été la création du bail réel et solidaire, c'est une bonne chose. L'acquisition progressive de la propriété, nous avons créé un produit au Crédit Mutuel Arkéa qui permet sur nos territoires de le faire en apportant des fonds propres pour nos clients emprunteurs, jeunes ménages, qui n'ont pas ou pas assez d'apport personnel. Le leasing immobilier, c'est très intéressant aussi. Ça, c'est une famille de solutions. Ensuite, et on en a eu un bel exemple dans ce speed dating avec Paola Fabiani, qui dirige Wisecom, c'est le rôle des entreprises pour loger leurs salariés. Dans un système français où, pour fidéliser des salariés près de leur employeur, il faut des logements, si le système est grippé, on a un certain nombre d'entreprises, là aussi, qui font bouger les lignes et qui apportent des solutions ou de création de foncières ou de prêts à long terme ou d'aide à l'accession à la propriété ou de caution pour leurs salariés. Ça, c'est des exemples qui ne supposent aucune évolution réglementaire, mais dont la diffusion pourrait être positive.
Julien Carmona, dans ce contexte de crise de logement, c'est quoi votre rôle très concrètement aux côtés des acteurs du terrain aujourd'hui ?
Alors d'abord un rôle de banquier, clairement, un rôle de financeur, à la fois sur le crédit habitat dans nos territoires de Bretagne et de Nouvelle-Aquitaine, où on a vraiment accru nos parts de marché, c'est-à-dire on a continué à prêter dans un contexte où d'autres banques, pour des raisons qui leur appartiennent, avaient plutôt fermé le robinet. Sur l'année 2025, on est en croissance, moins qu'on ne l'aurait voulu, mais quand même une croissance de l'ordre de plus 10, plus 15% en 2025 par rapport à 2024. C'est toujours ça de prix. Mais vous le savez, on a des taux d'intérêt qui ont baissé. Donc on attendait mieux. Et je pense que le contexte fiscal et le contexte psychologique et également le fait que le marché de l'immobilier neuf soit en crise expliquent un peu pourquoi la reprise n'est pas plus dynamique que ce qu'elle est. Donc un rôle de financeur des particuliers. Et puis, c'est l'occasion de parler d'ABEI, Arkéa Banque Entreprise Institutionnelle, un rôle de financeur des professionnels de l'immobilier, les promoteurs, les foncières, les bailleurs sociaux, les collectivités locales, aménageurs et l'ensemble des acteurs. Là-dessus, on a une part de marché nationale qui s'est accrue. Pour la banque de taille moyenne que nous sommes, c'est un beau chiffre. On a 15% de part de marché sur le financement de la promotion logement. Donc le secteur a connu des jours meilleurs, notamment en termes de mise en chantier de logements neufs. Mais beaucoup d'acteurs que nous finançons sont à la fois solides et dynamiques et on est vraiment heureux de les accompagner. Ça, c'est le financement. On est aussi investisseurs. Pour nous-mêmes et pour compte de tiers, alors sur tout type d'immobilier, mais le résidentiel est en train de monter en puissance. Et puis j'ajouterai, on est une des rares banques, mais avec nos amis des caisses d'épargne, avoir aussi un bailleur social, qui chez nous s'appelle Armoric Habitat, et qui va sortir de Bretagne à un moment, donc changer de nom. Et on considère que c'est aussi une manière de contribuer eh bien, à la relance du logement et à l'intérêt général.
Julien Carmona, merci d'avoir gentiment répondu à mes questions. Merci aussi de votre accueil ici. Merci encore une fois. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission, comme toutes les précédentes d'ailleurs, depuis votre smartphone et l'application Radio Immo, également sur le site internet. Merci à vous.
Merci
et on
à vous.
Se retrouve très prochainement sur l'antenne de Radio Immo. Salut.